Bonjour Beata Omoubi, mairesse.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. À 3 jours du début des commémorations du génocide des Tutsis au Rwanda, vous êtes écrivaine franco-rwandaise et dans votre dernier livre, Le Convoi, vous livrez pour la première fois votre histoire de survivante. Vous étiez adolescente en 94, vous aviez 15 ans, vous viviez à Boutaré dans le sud du pays et vous avez littéralement frôlé la mort avant d'être sauvée par l'ONG Terre des Hommes, emmenée vers le Burundi le 18 juin de cette année-là dans un convoi d'une centaine d'enfants. Il aura fallu 30 ans, Beata Omoubi-Meyres, pour que ces souvenirs-là puissent être dits, racontés, pas sous la forme du roman, mais sous une forme presque journalistique.
Il aura fallu 30 ans. Dans un premier temps, je n'ai pas considéré que mon histoire personnelle méritait un récit. Quand je suis entrée en littérature, c'était par la fiction et déjà pour pouvoir faire entendre les différentes destinées des survivantes et des survivants. Et ce n'est que au terme d'une enquête de 15 ans qui m'a amenée à reconstituer le puzzle de ce sauvetage que j'ai décidé d'écrire ce récit qui se veut un récit littéraire mais qui est aussi un texte de témoignage. Et là encore, pas uniquement pour relater mon unique survie, mais relater l'histoire d'un sauvetage inouï et apporter aussi un récit collectif de cette expérience-là.
Parce que le déclic donc se produit lorsqu'un journaliste de la BBC vous remet des clichés. 4 photos prises le jour de votre évacuation vers le Burundi. À ce moment-là, vous vous dites, il faut retrouver les autres, il faut retrouver aussi ceux qui m'ont permis de partir et de survivre.
Oui, il s'agissait pour moi, qui était dans cette quête de traces si importante, de retrouver d'autres enfants parce que je me disais que peut-être eux également étaient de leur côté en train de chercher des souvenirs, des images manquantes de leur survie. Et ce n'est que dans un deuxième temps, parce que je cherchais la liste des noms d'enfants du convoi du 18 juin, que je suis rentrée en contact avec les humanitaires qui avaient organisé ce convoi, Alexis Briquet et sa compagne, Diana Cavadini.
De l'ONG Terre des Hommes.
De l'ONG suisse Terre des Hommes. Et à ce moment-là, j'ai réalisé finalement qu'il n'était qu'une poignée qui s'était courageusement portée à notre secours alors que le monde entier nous avait abandonnés. Et j'ai aussi pris conscience que cette histoire finalement était, parce que c'était des gens qui avaient été très discrets sur ce qu'ils avaient fait, qu'elle n'était écrite nulle part. Et je me suis sentie quelque part une sorte de devoir, parce que j'avais cette capacité-là à écrire, de témoigner, à la fois un témoignage de gratitude, mais aussi pour mémoire de cet événement-là.
Entre le 7 avril, le début donc du génocide à Kigali, et le 7 juin, vous vivez, Beata Omoubi-Meyres, dans plusieurs caches, notamment dans la cave d'un hôtel désaffecté de Boutaré. Et lorsque les tueurs finissent par vous débusquer, vous et votre mère, ceux qui vous sauvent, c'est un trait de génie. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça qu'il m'est apparu en vous lisant. Vous leur dites que vous ne comprenez pas le Kenya-Rwanda, que vous ne parlez que français, que vous êtes française, et que si François Mitterrand un jour apprend que vous avez tué une Française, il ne vous aidera plus. C'est ce que vous leur dites et ça marche.
C'est ce que je leur dis et ça marche. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment aussi le mystère de nos survies. Je sais que ça aurait pu ne pas marcher. Néanmoins, j'avais cette conscience aiguë que pour eux, les Français, ou en tout cas la France, était un pays allié. Et donc en creux, évidemment, ce n'est pas à l'honneur de la France que cela ait pu me sauver. Si j'avais dit que j'étais belge ou italienne, effectivement, ça n'aurait pas fonctionné parce qu'il y a d'autres métis qui ont été tués durant ce génocide. Mais ce jour-là, ça a fonctionné. Et quelque part, c'est peut-être la première fois que j'ai raconté une histoire. Et c'était une histoire qui était assez miraculeuse quelque part.
Alors il y a une série de miracles comme ça, effectivement, hein, ce premier miracle d'échapper à la mort, d'échapper ensuite au viol et d'intégrer ce convoi où a priori on embarque que des enfants de moins de 12 ans, vous en avez 15 à l'époque. Il y a une autre chose aussi, c'est que le préfet de Boutaré à l'époque, celui qui a autorisé ce convoi, le préfet Nsabimana, vous l'apprendrez plus tard, a été aussi une des chevilles ouvrières du génocide. Et pourtant, il autorise ces convois à passer la frontière. Vous en parlez évidemment dans votre ouvrage. Et c'est un peu le symbole de toute l'ambiguïté de ce moment-là au Rwanda.
Absolument. En réalité, je ne sais pas s'il l'autorise, mais parce que les humanitaires ont obtenu un accord avec le gouvernement génocidaire, le gouvernement intérim, par intérim. Et je ne sais pas s'il l'autorise parce qu'il se dit « j'obéis aux ordres », une sorte d'Eichmann à l'envers, c'est-à-dire « je sauve parce que c'est un ordre qui vient de... »
Oui.
Voilà. Ou si déjà il sent que ce régime est en train de perdre la guerre contre le FPR et qu'il se dit « il faut que je pose quelque acte d'humanité pour ensuite pouvoir m'en prévaloir si je dois être jugé ». Je ne sais pas et je ne saurai jamais parce que je ne cherche pas non plus à aller le rencontrer.
Et il a en tout cas été condamné par le TPIR, puis
libéré.
Puis libéré. Et vous soulignez aussi à quel point finalement tout ce qui s'est passé pendant ces audiences devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda est peu accessible aujourd'hui aux victimes, aux survivants de ce génocide.
Oui, les archives du mécanisme résiduel du TPIR sont... c'est un vrai dédale, en fait. Et moi, j'ai passé des heures à essayer de comprendre, à essayer de trouver des images, des textes. Et bien sûr, cette justice qui a été rendue très loin du Rwanda, elle était nécessaire. C'était la moindre des choses que la communauté internationale pouvait faire. Mais il me semble que ce serait important qu'elle soit vraiment accessible d'un point de vue... par rapport au jargon juridique, mais concrètement aussi pour les victimes, parce que ça fait aussi partie de la reconstruction que nous avons à faire chaque jour.
Il y a aussi dans ce livre des cris de colère à certains moments, notamment quand vous dites, vous avez la conviction que ce génocide aurait pu être évité si, au moment où les soldats français et belges précisément viennent évacuer les étrangers, si ces soldats-là s'étaient unis au casque bleu présent dans le pays, eh bien, peut-être les massacres auraient-ils pu être stoppés au début quand ils n'étaient que à Kigali.
Oui, c'est sans doute la plus grande amertume que je peux avoir. C'est l'idée, et on le sait maintenant, que ce génocide avait été annoncé, qu'il aurait pu être arrêté par les paramilitaires venus uniquement pour évacuer leurs expatriés, si les Nations Unies n'avaient pas retiré une très très grande partie des casques bleus qui étaient présents, et le général Roméo Dallaire n'a eu de cesse d'appeler à l'aide et de protester contre cette décision. Donc il y a vraiment un sentiment d'abandon absolu de la communauté internationale, et on doit faire avec cela aussi.
Comment voyez-vous arriver le 7 avril 2024, ces commémorations? Pour vous, c'est une épreuve, c'est un moment nécessaire après tout?
C'est un moment nécessaire parce que il y a aussi la réalité que la très grande majorité des Rwandaises et des Rwandais aujourd'hui sont nés après 94. Donc il faut transmettre cette histoire, il faut ne pas oublier. C'est aussi l'occasion, et ça on ne le dit pas assez souvent, de pouvoir manifester la solidarité et le soutien envers les rescapés. Et j'ai presque envie de dire, ce n'est pas uniquement le 7 avril ou pendant les commémorations qu'il faut le faire, mais l'humanité se doit de manifester un soutien constant parce que notre besoin de consolation est immense.